France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal, Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Avec ou sans contrôleur, pas de différence pour la sécurité dans les trains. Les mots du patron de la SNCF ce matin, 10 jours après l'accident de TER survenu dans les Ardennes. De quoi raviver la colère. Un mois après l'incendie de Lubrizol, Édouard Philippe est à Rouen. Le Premier ministre promet vigilance et fermeté sur la question des indemnisations. C'était attendu, c'est désormais officiel. La France va tester l'usage médical du cannabis. Les députés donnent leur feu vert. Dans ce journal, nous serons également en Irak où les manifestations anti-gouvernementales reprennent dans la violence. Au Chili, où elles se poursuivent, ces manifestations. Et nous ferons le point sur la situation en Bolivie. La quasi-totalité des bulletins de la présidentielle ont été dépouillés et donnent le sortant Evo Morales vainqueur dès le premier tour. Et puis comme chaque vendredi, nous parlerons d'environnement avec notre invitée Edina Iftissen, chargée de mission Océan pour Greenpeace France, est avec nous. Il a déclenché le droit de retrait de plusieurs agents et paralysé le trafic des trains le week-end dernier. 10 jours après l'accident de TER dans les Ardennes, le patron de la SNCF se confie à la presse régionale. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Et Guillaume Pépil assure la présence ou non d'un contrôleur à bord d'un train ne fait pas de différence en matière de sécurité.
Et oui, pour le président de la SNCF, les conducteurs sont spécialement formés pour conduire seuls et ils disposent des équipements nécessaires, notamment des caméras et une alerte radio. Sur l'alerte radio notamment, il y a quand même des améliorations à apporter, reconnaît la compagnie ferroviaire dans son rapport sur l'accident dans les Ardennes publié ce matin. Elle rappelle que le conducteur a été contraint de sortir de sa cabine pour activer les signaux lumineux. L'alerte radio ne fonctionnant plus à cause de l'impact. La SNCF va donc prendre des mesures pour mieux protéger à l'avenir les systèmes d'alerte, est évoqué notamment un dispositif qui permettrait, en cas de choc, de déclencher automatiquement cette alerte. Des mesures saluées par certains syndicats, mais tous sont unanimes pour dénoncer la non-prise en compte du facteur humain. Florent Montaillier est secrétaire général adjoint d'UNSA Ferroviaire.
Nous regrettons que le rapport n'ait pas mis en lumière le mode d'exploitation avec un seul conducteur à bord et peut-être les conséquences que ça pouvait engendrer. Ça, c'était une revendication de notre fédération, c'est qu'effectivement, on puisse, à titre conservatoire, réintroduire des agents qu'on appelle communément des contrôleurs, donc formés et habilités à la sûreté et également à la sécurité à bord des trains, donc de pouvoir aider en cas de problème le conducteur de train.
On ajoutera que dans son rapport, la SNCF estime n'avoir commis aucune faute. La collision est due, disent les experts de la compagnie, au convoi routier exceptionnel qui aurait dû emprunter un autre trajet alors qu'il s'est retrouvé là coincé devant un passage à niveau, manifestement pas adapté à son gabarit.
Anne-Laure Jumet, la SNCF où le trafic reste un peu perturbé aujourd'hui, notamment du côté des TGV Atlantique. En raison d'une grève locale en région parisienne, 9 trains sur 10 circulent selon la direction. C'est plus compliqué dans le sud où la circulation est toujours interrompue entre 7 et Narbonne à cause des fortes pluies de la semaine. Un mois après l'incendie de Lubrizol à Rouen, on ne sait pas précisément d'où est parti le feu. C'est ce que reconnaît le parquet de Paris saisi de l'enquête. Ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de l'écologie Elisabeth Borne sont à Rouen. Ils sont venus assister à la signature des conventions d'indemnisation des acteurs touchés par la catastrophe. Édouard Philippe.
Lubrizol s'est engagé, et je pense que c'est plus important encore qu'un montant, sur le fait que ceux qui ont subi un dommage seront indemnisés. Et donc toute personne qui aura subi un dommage, les agriculteurs qui pourront l'établir, soit parce qu'ils n'ont pas pu commercialiser leur production, soit parce qu'ils ont détruit leur production, pourront émarger, si j'ose dire, à ce fonds d'indemnisation. Je pense que c'est en vérité la grande garantie, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui sont dans les zones concernées ou à la frange des zones concernées, parce qu'un certain nombre d'agriculteurs ont fait valoir le fait que lorsqu'ils n'étaient pas exactement dans la commune qui avait été frappée par un arrêté limitant ou interdisant la production ou la vente, mais qu'ils habitaient juste à côté, ils pouvaient avoir subi un dommage. S'ils peuvent établir qu'ils ont subi ce dommage, notre objectif c'est de faire en sorte qu'ils soient indemnisés.
Le Premier ministre Édouard Philippe à Rouen. On l'apprend à l'instant, l'arrêté anti-pesticides du maire de Langouette, Daniel Cueff, est annulé par la justice. C'est son avocat qui l'annonce. Le tribunal administratif de Rennes retient qu'un maire n'a pas le pouvoir de prendre un arrêté en matière de réglementation des pesticides. Emmanuel Macron boucle son voyage dans l'océan Indien. Après Mayotte, le président est à La Réunion depuis 3 jours. Il y a annoncé une série d'aides à l'emploi hier avec un total de 700 millions d'euros sur 3 ans. Insuffisant pour parvenir à dissiper les doutes des réunionnais. L'agence du médicament avait déjà donné son aval. L'Assemblée nationale embraye. Les députés disent oui à l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Ils ont voté à main levée ce matin un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale. Amendement signé Olivier Véran de La République En Marche.
Je reçois énormément de courriers de la part de gens qui souffrent de maladies diverses et variées et qui espèrent que l'usage médical du cannabis leur apportera une réponse. Cette expérimentation se conduira en milieu hospitalier, visera à la prescription par des médecins spécialistes, des neurologues, des cancérologues, des spécialistes de la douleur. Elle pourra porter sur 3000 patients en France et visera à expérimenter l'impact positif et les éventuels effets indésirables des dérivés du cannabis, les principaux mais pas que, étant le THC et le cannabidiol, le CBD, sur un certain nombre de pathologies de patients telles que des douleurs neuropathiques, la spasticité musculaire dans le cadre de maladies comme la sclérose en plaques ou encore les douleurs liées au cancer et à ses traitements et ses complications. 17 pays de l'Union européenne ont déjà autorisé les traitements à base de cannabis médical. En France, depuis 2014, un décret a été modifié qui vise à autoriser la prescription et la délivrance de médicaments contenant des dérivés du cannabis, mais c'est compliqué, c'est cher, c'est peu développé et les indications sont peu étendues. Il ne s'agit pas de développer un nouveau médicament qui remplacerait le paracétamol ou d'autres antalgiques. Il s'agit là de trouver le moyen d'un nouveau traitement antidouleur adjuvant et d'en déterminer l'effet et l'efficacité en vie réelle auprès d'un panel de malades suffisamment large dans un cadre scientifique totalement validé, totalement sécurisé, totalement évalué, en espérant qu'à terme, cela permette d'apporter le soulagement à des milliers de Français.
Olivier Véran, ce matin à l'Assemblée nationale, extrait choisi par Pierre Neveu. Monsieur le Président, la France a besoin de générosité. L'appel de 118 associations et fondations emmenées par France Générosité ce matin dans le journal Les Échos. Elles demandent à l'exécutif de renoncer à la réforme sur le mécénat d'entreprise. Il est question de passer de 60 à 40% le taux de défiscalisation pour les montants de plus de 2 millions d'euros. Et cela fait craindre aux signataires une baisse des dons. Nolwenn Poupon est responsable des études chez France Générosité.
Le gouvernement change un dispositif qui fonctionne très bien, qui permet aux associations et fondations de financer des projets alors que les subventions de l'autre côté baissent. Et ce changement fiscal risque d'entraîner une baisse de 400 millions d'euros de dons pour les associations et les fondations après une multitude de réformes qui leur ont déjà fait perdre énormément de dons l'année dernière. Pour rappel, le baromètre France Générosité a indiqué une baisse de 4,2% des dons en 2018. On nous avait assuré dans le cadre de la transformation de l'ISF en IFI qu'il n'y aurait pas de changement de comportement. Ça nous a prouvé cet exemple que lorsqu'il y a une modification fiscale, les gens changent leur comportement parce que le changement, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc ça crée un attentisme. Donc clairement, cette modification de la loi mécénat, c'est un vrai danger pour le secteur associatif et on demande au gouvernement de laisser en place un dispositif qui fonctionne et qui a montré ses preuves.
Nolwenn Poupon de France Générosité avec Pauline Renoir. Le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse, moins 0,9% au troisième trimestre, ce qui représente un peu moins de 6 millions de chômeurs. Ce sont les derniers chiffres publiés par Pôle emploi avant la réforme controversée de l'indemnisation chômage. Elle entre en vigueur vendredi prochain. Les trottinettes font leur entrée dans le code de la route. Un décret publié ce matin au journal officiel vient encadrer l'usage de ce nouveau moyen de transport. Amende à la clé. Endeuillé par plus de 150 morts au début du mois, les manifestations antigouvernementales reprennent malgré tout en Irak. Et dans la violence, deux manifestants ont été tués ce matin dans de nouveaux rassemblements à Bagdad. Lucille Wasserman, vous êtes à Bagdad pour France Culture où la situation semble de plus en plus tendue.
Écoutez, les manifestants se rassemblent par centaines dans le centre-ville de Bagdad et la situation est déjà extrêmement tendue. J'étais place Tahrir Square il y a encore quelques minutes et on pouvait entendre de nombreuses grenades assourdissantes qui provoquaient régulièrement des mouvements de panique parmi les protestataires. On a vu aussi des tirs de gaz lacrymogène qui auraient déjà fait plusieurs victimes selon certains témoins sur place sans que cela ne soit toutefois confirmé. Ces manifestants se rassemblent une nouvelle fois aujourd'hui, vous le savez, après une semaine déjà sanglante en début du mois. Ils reprennent les rues à Bagdad pour dénoncer notamment le chômage et la corruption. Ils scandaient place Tahrir Square, Iran dehors, Bagdad libre. Outre le centre-ville, épicentre des manifestations, je peux vous dire que de l'autre côté du Tigre, où se trouve la zone verte, les rues sont entièrement bloquées. Les forces de sécurité ont positionné des murs de béton sur les principaux axes pour éviter évidemment que les manifestants n'accèdent à ce quartier ultra sécurisé où se trouvent la plupart des institutions politiques. Un début de journée donc extrêmement tendu ici. Ces manifestations devraient prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure de la journée.
France Culture à Bagdad avec Lucille Wasserman. Au Liban, la contestation entre dans sa deuxième semaine et dans un court discours hier soir, le président Michel Aoun n'a pas réussi à calmer la colère. Les manifestants réclament le départ de l'ensemble de la classe politique et le pays est presque totalement paralysé. Au Chili non plus, la colère ne retombe pas. Des dizaines de milliers de personnes ont encore manifesté hier contre les inégalités sociales. Deux semaines après le début des troubles, les Nations Unies décident d'envoyer une mission pour enquêter enquêter sur de présumées violations des droits humains. À Santiago du Chili, pour France Culture, Justine Fontaine.
Selon l'Institut chilien des droits de l'homme, un organisme public indépendant, plus de 2500 personnes ont été arrêtées en une semaine, des centaines de manifestants blessés et 5 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre. Le principal syndicat chilien de médecins, dont fait partie Enrique Morales, s'alarme de la gravité des blessures constatées dans les hôpitaux.
Les chiffres que nous avons compilés sont terribles, sont sans appel. 43 personnes au moins ont été blessées aux yeux, avec une perte de la vision et bien sûr des séquelles à vie.
La députée communiste Carmen Hertz, ancienne avocate de victimes de la dictature au Chili, reproche au gouvernement d'avoir confié aux militaires le maintien de l'ordre en mettant en place l'état d'urgence dans le pays.
Pourquoi les militaires sont-ils en charge de la sécurité des citoyens alors qu'ils ne sont pas du tout formés à cela ?
La délégation du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU est attendue au Chili en début de semaine prochaine.
Justine Fontaine. On y est presque en Bolivie. 5 jours après l'élection présidentielle, 99,99% des bulletins ont été dépouillés. D'après les résultats publiés par le tribunal électoral suprême, le socialiste sortant Evo Morales est réélu avec suffisamment d'avance pour se passer d'un second tour. Et des résultats contestés, Nadine Epstein.
Si Evo Morales revendique sa victoire, son adversaire Carlos Mesa ne reconnaît pas lui sa défaite, tout comme des milliers de Boliviens qui crient à la fraude électorale. L'Organisation des États américains qui a supervisé le scrutin recommande, elle, la tenue d'un second tour. Elle suspecte des anomalies de décompte des voix. Selon les projections de la commission électorale bolivienne, lundi, le président dépassait de 10 points son opposant, ce qui lui assurait une victoire dès ce premier tour. Or, auparavant, après le dépouillement de 84% des bulletins, aucun des deux concurrents n'obtenait le score nécessaire pour être élu. Un second tour se profilait. Outre l'opposition bolivienne, l'Union européenne et les États-Unis émettent des doutes sur le processus électoral. Le président bolivien Evo Morales accuse ses détracteurs de vouloir organiser un putsch et l'empêcher d'assurer son quatrième mandat. Malgré ses réussites économiques pendant 13 ans à la tête du pays, le chef de l'État socialiste s'est attiré les foudres en 2016 après avoir fait fi des résultats du référendum national qui limitait la fonction présidentielle à 2 mandats. Le premier indigène à diriger la Bolivie est aujourd'hui attaqué pour ses dérives autoritaires et antidémocratiques.
Les précisions de Nadine Epstein. Le Botswana reconduit son président. Arrivé au pouvoir l'an dernier après la démission de son prédécesseur, le chef d'État Masisi est élu pour 5 ans. Son parti au pouvoir depuis l'indépendance il y a 50 ans remporte la majorité au Parlement. Le Brexit pour Halloween, de plus en plus difficile d'y croire. Boris Johnson réclame des législatives anticipées le 12 décembre pour sortir de l'impasse. En échange, il promet plus de temps aux députés pour ratifier l'accord sur la sortie de l'Union européenne et officialise donc un très probable nouveau report. Du côté de l'Union, justement, les ambassadeurs des pays membres se sont encore réunis ce matin à Bruxelles. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Et à l'issue de cette réunion, Angélique, visiblement l'Union n'a pas encore tranché sur la durée d'un éventuel nouveau report.
Non, c'est Michel Barnier lui-même qui l'a annoncé à l'issue d'un peu moins de 2 heures de discussion, qualifiée de constructive par plusieurs sources. Le négociateur en chef du Brexit était venu briefer les ambassadeurs. Ils ont acté clairement le principe d'un report. Ça s'est fait, donc le Brexit ne devrait pas avoir lieu dans 8 jours. Mais ils maintiennent tout de même la pression. Ils n'ont pas réussi en fait à s'accorder sur le temps qu'il faut donner au Premier ministre Boris Johnson pour se sortir de la nouvelle impasse politique dans laquelle il se trouve. On a néanmoins avancer sur le sujet, confie une source diplomatique française. Rappelons, c'est très important que cette décision doit se prendre à l'unanimité. Londres a demandé un report de 3 mois et envisage d'organiser des élections, mais la décision ne sera prise que lundi à Londres. En reportant leur décision au début de la semaine prochaine, les Européens renvoient une nouvelle fois la balle à la classe politique britannique et à ses responsabilités. Ils trancheront quand ils sauront si ces élections se tiennent ou pas. Et c'est la position française qu'il a donc emportée. Paris estime qu'aucune décision ne pouvait être prise côté européen avant que Londres n'abatte ses cartes. Notre position, c'est de donner du temps, si on comprend pourquoi, a encore répété hier la secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin. Paris, que l'on disait isolé sur le sujet, selon une source européenne, la plupart des autres capitales étaient plutôt favorables à un report de 3 mois.
Angélique Boin, merci beaucoup. La crise du 737 MAX se poursuit pour Boeing. Un an après l'accident d'un appareil de Lion Air qui a fait 189 morts, l'Indonésie publie son rapport. Les enquêteurs commentateurs pointent du doigt des défauts dans la conception du système de commande de vol. Le soutien peut parfois venir de loin. Des manifestants se sont rassemblés hier soir à Hong Kong pour témoigner de leur solidarité à la Catalogne, de la lutte pour la démocratie en passant par les libertés et l'antitotalitarisme. La rue hongkongaise se trouve des points communs avec les indépendantistes catalans, Florence de Changy.
Depuis quelques semaines, on a vu apparaître le mot « Catalonia » sur les graffitis de Hong Kong, dans l'idée « Catalogne, Hong Kong, même combat ». Et ils étaient quelques milliers de manifestants hier soir à s'être rassemblés à Chatham Garden, l'un des squares de Central sur l'île de Hong Kong, pour exprimer leur soutien aux manifestants de Catalogne. Martin, 31 ans, ingénieur du son, est allé à Barcelone récemment. Il explique les points communs entre les manifestants catalans et les manifestants hongkongais.
Je pense que les deux côtés font face au même problème. Brutalité policière, liberté de la parole parce qu'ils ont mis en prison leurs leaders politiques, exactement comme à Hong Kong, où il y a quelques années, ils ont disqualifié les parlementaires qui ne soutenaient pas la Chine. Donc c'est vraiment pareil.
Mais soutenir la Catalogne risque de donner raison à la Chine et au gouvernement de Hong Kong qui accuse le mouvement de protestation de velléité indépendantiste. Martin n'est pas d'accord.
Oui, je suis au courant, mais la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Si vous n'aimez pas l'idée de ce rassemblement, vous ne venez pas, c'est simple.
Ce rassemblement avait été autorisé, ce qui arrive de plus en plus rarement. Il s'est d'ailleurs terminé sans heurts et en musique.
Le reportage à Hong Kong de Florence de Changy. L'héritier de l'Empire Samsung est de nouveau devant la justice. Il est arrivé ce matin au tribunal de Séoul où il doit être jugé pour corruption. Un procès à haut risque pour le premier fabricant mondial de smartphones et puces. En cas de condamnation, il se retrouverait privé de son principal décideur. Ils sont peut-être les derniers à gravir le site d'Uluru. Des touristes affluent par centaines sur cette célèbre formation rocheuse au cœur du désert australien. Dans quelques heures, l'ascension de ce monolithe considéré comme sacré par les aborigènes sera interdite. Toute l'histoire de ce site mythique, c'est à lire sur franceculture.fr. Y aura-t-il un nouveau sanctuaire marin en Antarctique ? Des menaces planent sur le projet emmené par l'Australie et la France. Les 25 pays et l'Union européenne réunis depuis lundi en Tasmanie ont visiblement du mal à se mettre d'accord. La Chine et la Russie voient d'un mauvais œil la création de nouvelles aires maritimes protégées dans l'océan. Bonjour Edina Iftissen.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de campagne océan pour Greenpeace France. Avant de revenir précisément sur ce qui se joue en Tasmanie, est-ce qu'on peut d'abord peut-être planter le statut actuel de l'Antarctique ? Dans quelle mesure le pôle Sud est déjà protégé ?
Alors l'Antarctique, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est ce continent glacé de plus de 14 millions de kilomètres carrés qui abrite une diversité en termes d'espèces qui est assez incroyable. Ça va aussi bien de cétacés, de populations de krill, ces petits crustacés qui servent de nourriture et qui maintiennent une chaîne alimentaire. Il y a des écosystèmes uniques de corail en eau profonde, de monts sous-marins. Donc tout ça, c'est co-géré par une convention qu'on appelle la CAMLAR, une convention de conservation de la flore marine d'Antarctique, et il y a différents États qui sont impliqués, donc comme vous l'avez cité, 25 États. Il y a une aire marine protégée depuis la création de la CAMLAR qui a été créée, c'est la mer de Ross. Et il faut dire que ça a mis 10 ans pour être créé, donc ça démontre un petit peu la difficulté de la CAMLAR à arriver à un consensus. La CAMLAR, c'est un vote par consensus, donc on en reparlera.
Les questions de Véronique Reberotte.
Et on voit que le dernier rapport du GIEC sur les océans est extrêmement désespérant, sur l'état des océans, pourtant indispensable, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. On voit que les scientifiques poussent fortement à la création à grande échelle d'aires marines protégées. Ce nouveau projet de sanctuaire, il consisterait en quoi ? Il protégerait quoi ? Et il serait à quel endroit dans l'Antarctique ? C'est pas tout l'Antarctique, évidemment.
Oui, absolument. Donc il y a, pendant cette CAMLAR, donc cette négociation, il y a trois propositions d'aires marines protégées qui sont sur la table. Celle qui nous intéresse, c'est l'Est Antarctique. Les autres sont la mer de Weddell et la péninsule Antarctique. Mais celle qui nous intéresse, qui est portée par la France et l'Australie, c'est Est Antarctique. Donc, comme son nom l'indique, c'est à l'est de l'Antarctique. Pourquoi on veut créer une aire marine protégée? D'abord parce que c'est le seul outil pour conserver des espèces, pour conserver des écosystèmes et pour protéger les écosystèmes des impacts humains, de la pêche notamment, et du changement climatique. Donc là, pourquoi cette zone en particulier? Parce qu'il y a des coraux en eau profonde, des coraux qui participent au maintien des habitats, il y a des populations de krill, il y a des populations de cétacés. Donc c'est pour maintenir cette biodiversité et aussi pour en faire une zone de référence qui permettra de comparer si on protège cette zone avec le bon niveau de protection, pour comparer avec les autres zones qui ne sont pas protégées et essayer de voir quels sont les effets aussi d'une aire marine protégée dans cette zone par rapport aux impacts de pêche et par rapport au changement climatique.
Une aire marine protégée, ça veut dire quoi? Qu'on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut en termes de droits de pêche. C'est pour ça d'ailleurs que la Norvège s'y oppose aussi. C'est pour ça que les pays s'y opposent. On ne peut plus faire ce qu'on veut, on ne peut plus aller forer. Ça veut dire quoi?
Oui. Alors l'aire marine protégée, c'est un terme générique, mais il y a différentes aires marines protégées. Elles sont classées notamment par l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et il y a différents niveaux de protection en fonction des besoins de protection. Donc déjà, il y a un objectif à créer une aire marine protégée. Pourquoi on crée une aire marine protégée? Est-ce que c'est pour protéger des espèces en particulier, des écosystèmes en particulier? Dans ce cas précis, là, une aire marine protégée, ça permettrait de réguler la pêche. Ça permettrait de protéger des écosystèmes bien précis. Et les scientifiques s'accordent aujourd'hui à dire que les aires marines protégées ne fonctionnent que si elles sont fortement, voire intégralement protégées. Fortement ne veut pas forcément dire pas de pêche, ça veut dire qu'on va réguler de façon assez stricte les activités de pêche. Mais ça ne veut pas dire pas du tout de pêche. Intégralement, potentiellement, oui. Et aujourd'hui, celles qui fonctionnent, c'est celles qui sont forcément ou intégralement, et on l'a prouvé parce que il y a des zones qui sont classées aires marines protégées, mais qui ne bénéficient d'aucun moyen de gestion, très peu d'objectifs adaptés à la situation, peu de financement, et qui ne fonctionnent pas, qu'on appelle des paper parks, donc des aires marines protégées, jolies sur le papier, mais qui en réalité n'existent pas.
Là, les discussions vont surtout avoir lieu la semaine prochaine. Donc, des fuites laissent penser que la Russie, la Chine, même s'ils sont déjà opposés hein, par le passé à cette nouvelle aire marine protégée en Antarctique, quels sont leurs arguments, la Chine et la Russie, et aussi la Norvège?
Alors, pour revenir un petit peu sur ce sujet de création d'aires marines protégées, donc, comme je le disais un peu plus tôt, la mer de Ross a été créée au bout de 10 ans de négociations. La proposition aujourd'hui qui est sur la table Est-Antarctique, il faut savoir qu'elle est sur la table depuis 2010. Et elle a été revue à la baisse en termes d'ambition depuis 2010. Par exemple, elle est passée de 1,8 million de kilomètres carrés à aujourd'hui 1 million de kilomètres carrés. Et à chaque fois, les États revoient à la baisse cette proposition. Donc, elle revient encore une fois sur la table. L'année dernière, elle a été retoquée par, en effet, le veto de la Chine et de la Russie. Et cette année, il y a des éléments qui disent que peut-être la Chine et la Russie seraient dans la même position, mais ce n'est que des rumeurs, parce que la discussion n'a pas eu lieu encore, elle a eu la semaine prochaine. Peut-être qu'en effet, la Russie et la Chine, pour des raisons de refus de régulation des activités de pêche, pour des raisons peut-être géopolitiques qui n'ont rien à voir avec l'Antarctique, de négociations entre États, parce que les discussions et les décisions se font au plus haut niveau. Certes, les délégations sont en train de négocier aujourd'hui à la Comelar, mais il faut savoir que ces discussions ont lieu au niveau présidentiel, entre les présidents de la Chine, de la Russie, de la France, et que c'est aussi à ce niveau-là que ça se décide. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Est-ce qu'en effet, ils vont bloquer? Et quelles sont surtout les raisons qui les mèneront à bloquer? Ou peut-être que ce sera créé et on croise les doigts pour que ce soit le cas.
La France met quoi en avant puisqu'elle plaide pour cette nouvelle, encore une fois, ce nouveau sanctuaire? C'est peut-être les rapports de plus en plus alarmistes, une situation effectivement qui, au niveau de la faune, la flore, du monde entier, ne s'arrange pas?
On le voit avec le rapport du GIEC. On pensait l'Antarctique préserver des effets du changement climatique il y a quelques années. Clairement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. La fonte des glaces touche l'Antarctique. Si l'Antarctique est touchée, ça peut avoir un impact au niveau global, non seulement pour les espèces qui dépendent de l'Antarctique, mais aussi au niveau mondial. Si l'Antarctique fond, on a potentiellement une élévation du niveau de la mer d'un mètre, un million ce serait quand même dramatique. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'en Antarctique, il y a ces populations de krill. Par exemple, un krill, c'est un puits de carbone.
Petit crustacé,
petite crevette dont se nourrissent les cétacés. Et le krill, c'est un puits de carbone, parce qu'il se nourrit de plancton, notamment de phytoplancton. Et à titre de comparaison, les émissions qui sont stockées potentiellement par le krill représentent 35 millions d'émissions d'une voiture par an, ce qui est quand même assez énorme. Donc il y a un impact direct entre la préservation de ces espèces en Antarctique et la lutte contre le changement climatique au niveau global. C'est ça aussi qui est mis en avant, c'est les écosystèmes qui sont dans cette zone. Et ce qui est important aussi, c'est de dire, il faut absolument que la Comelar arrive à une décision, parce qu'aujourd'hui, elle démontre son inefficacité. Il y a un enjeu de crédibilité de la CAMLAR qui peine à créer les aires marines protégées alors que c'est son rôle. Nous, on plaide non seulement pour qu'il y ait cette aire marine protégée qui soit créée, mais aussi qu'il y ait une réflexion au niveau mondial concernant les océans. D'où le traité mondial des océans et le besoin d'avoir une vision systémique des océans. On ne peut pas, ils ne sont pas en silo, on ne peut pas protéger en Antarctique et oublier ce qui se passe ailleurs. Donc nous, on plaide pour 30% des océans protégés d'ici à 2030. Et il faut absolument que la France pousse dans ce sens.
Merci beaucoup Edina Iftissen, chargée de campagne Océan pour Greenpeace France. Merci d'avoir été avec nous dans ce journal.
Merci à vous.
Et merci également à Véronique Rebérotte. Il pleut encore un peu sur l'île de France et les Hauts-de-France. Cet après-midi ailleurs, le soleil est là, accompagné de quelques nuages. Sur la moitié nord, les températures tournent autour de 16-17 degrés au-dessus de Clermont-Ferrand, de 18 à 22 plus au sud. Ce journal a été réalisé avec Nicolas Paumet et Adèle Caglar. Prochain rendez-vous de la rédaction à 18h.